Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Studio Zef. Bienvenue dans La Lorgnette, le magazine d'actualité de Studio Zef qui regarde local pour penser global. Ce soir, co-animation de cette émission avec Amira. Bonjour Amira.
Bonjour.
Tu es en stage chez nous pour un mois, tu es en école de journalisme.
Exactement.
Et ce soir, de quoi on va parler?
Alors, ce soir, Clémentine, on va parler des soulèvements de la Terre. Ce qui repousse partout ne peut être dissous. C'est l'un de leurs slogans phares. Les Soulèvements de la Terre, c'est un collectif d'associations paysannes et écologiques. On en a beaucoup entendu parler avec le rassemblement à Sainte-Soline contre le méga-bassin et aussi avec le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. On va se pencher plus particulièrement sur la dissolution qui a été prononcée hier au Conseil des ministres. Cette annonce a entraîné plus d'une centaine de rassemblements dans toute la France.
Et pour en parler, nous accueillons Upsal d'Extinction Rébellion. Bonjour Upsal.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors on t'a déjà reçu il n'y a pas très longtemps pour parler de Sainte-Soline. Tu étais présente lors du rassemblement. Et donc comme l'a dit Amira ce soir, on parle des soulèvements de la Terre et de la dissolution qui a été prononcée hier au Conseil des ministres. Est-ce que tu peux présenter déjà l'association dont tu fais partie et qui fait partie elle-même des soulèvements de la Terre?
Alors Extinction Rébellion, c'est un collectif qui a été monté d'abord en Angleterre en 2018 et puis en France en 2019. Il y a un groupe local à Blois, il y a plein de groupes locaux dans le monde entier. C'est un groupe qui prône la désobéissance civile non violente. Donc quand on entend parler de Darmanin sans arrêt de violence, on se demande de quel côté elle est, mais sûrement pas d'une autre a priori. Voilà, on est un petit groupe, on fait pas mal d'actions sur Blois, sur les départements, et des fois on va rejoindre des actions un peu plus grosses, où on se retrouve à faire des choses avec, entre autres, les soulèvements de la Terre, comme Sainte-Soline, par exemple.
Comment est-ce que Extinction Rébellion a rejoint les soulèvements de la Terre? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment s'est créé ce collectif d'associations et d'organisations paysannes?
En fait, les soulèvements de la Terre, c'est un regroupement de, effectivement, la Confédération paysanne, donc un syndicat, plein de groupes écolos, plein de groupes locaux, en fait. Il y a aussi toute une base qui vient de la base de Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'eux, ils ont réussi à maintenir et avoir gain de cause. Comme il y a des projets un petit peu pourris à travers tout le territoire, je pense qu'en fait, il y a des groupes locaux qui se forment un petit peu partout. C'est des riverains, c'est des groupes écolos qui sont plus installés, comme Greenpeace ou Extinction Rébellion. Et puis, ces groupes-là, ils se fédèrent pour réussir à imposer un rapport de force. Et les soulèvements de la Terre, en fait, c'est un peu le bouc émissaire, quoi.
Quelles ont été les premières actions du mouvement et celles qui ont fait le plus de bruit?
Alors, Extinction Rébellion, pour Extinction Rébellion ou pour les soulèvements de la Terre?
Pour les soulèvements de la Terre.
Alors, pour les soulèvements de la Terre, bon, ce qui est phare, c'est Sainte-Soline. Hein. Ça s'était déjà pas très très bien passé à l'automne. Le 25 mars, on était 30 000. On s'est pris une grenade toutes les deux secondes. Moi, j'ai eu l'impression d'être en zone de guerre. Il faut imaginer que c'est des écolos qui viennent manifester, donc il y a des enfants, il y a des personnes âgées, il y a des musiciens, il y a une ambiance plutôt festive, et on n'est même pas proche du site, parce qu'ils ont commencé à nous bombarder, on était à 4 ou 500 mètres, et j'emploie vraiment à dessein le mot bombarder. J'ai eu l'impression d'un seul coup de passer de la petite balade champêtre où on rigolait, on chantait, à d'un seul coup en zone de guerre. Donc ça, c'est l'État qui instaure ça, hein, puisque 3200 gendarmes en face de nous, pour défendre un trou de terre, c'est l'État qui instaure la violence. Après, il y a eu toute une campagne d'action, donc là où en fait ils rejoignent des groupes locaux qui se battent déjà depuis très longtemps contre certains projets. Donc il y a eu le sable à Saint-Colomban, avec entre autres les Lafarge, qui utilisent beaucoup de sable là-bas, et puis tous les... le maraîchage où on a entendu parler justement qu'ils avaient détruit des serres, mais ils n'ont pas détruit des serres d'un petit paysan. Ils ont détruit les serres énormes d'un énorme agro-industriel qui utilise du sable pour faire de la mâche, qui va inonder, je crois que c'est 50% de la mâche qui est consommée en Europe. Donc, on sait maintenant qu'il va falloir consommer local et arrêter de déplacer sur toutes les distances, quoi. Donc c'est pas n'importe quelle serre. Ils ont fait le Lyon-Turin qui a fait beaucoup de bruit aussi. Le Lyon-Turin, on se dit mais qu'est-ce qu'il... les écolos ils marchent sur la tête, ils veulent pas de ferroutage, qu'est-ce qu'ils font, ils veulent qu'on continue sur les camions. Alors les écolos en fait ils veulent qu'on utilise la ligne qui existe déjà au lieu de fracasser la montagne, sachant que cette ligne là elle peut être réhabilitée, et puis c'est pas parce qu'on décide qu'il y aura du fret donc ce tunnel il faut peut-être déjà utiliser ce qu'on a avant d'avoir un projet aussi énorme que ça.
On aura l'occasion d'en reparler du Lyon-Turin. On a préparé des petites choses là-dessus.
Je spoil.
Et l'enjeu, on le voit bien, c'est l'accaparement des ressources. Quelles sont un peu les valeurs communes à toutes les organisations et structures qui font partie des soulèvements de la terre?
Ben, c'est préserver notre milieu, faire que notre terre elle reste habitable pour nous et les autres vivants, parce que on est vraiment imbriqués. En gros, notre espèce survivra pas sans les autres espèces. Donc, forcément, la base c'est l'eau, hein, parce que sans eau on fait rien. Donc, c'est Sainte-Soline. Hein. Sainte-Soline, c'est 6% des agriculteurs qui en bénéficient. Donc, en gros, si on prend 16 agriculteurs, il y en a un qui aurait toute l'eau. Et puis les 15 autres, ils auraient plus d'eau, puisque le premier aurait tout pompé dans les nappes. Donc on voit bien que c'est plus tenable, et que surtout de continuer à sponsoriser, à perfuser cette agro-industrie qui nous détruit. Ça, je crois que c'est un truc commun à tous les groupes écolos. L'artificialisation des sols, parce qu'effectivement, la biodiversité, elle souffre et on ne pourra pas faire sans elle. Donc, il va falloir mettre tous les moyens pour arrêter de la détruire et ça, le faire tout de suite. On n'a plus le temps, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui nous rend tous très solidaires.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé hier en Conseil des ministres ?
Alors, notre cher ministre de l'Intérieur avait donc, après Sainte-Soline, décidé de dissoudre les soulèvements de la terre. Alors, ça a eu un effet auquel il ne s'attendait pas, je pense, c'est que du coup, il y a 170 comités maintenant, alors qu'avant, il devait y en avoir une poignée. Il y a 100 000 personnes, dont des personnalités vraiment très différentes qui se revendiquent des soulèvements de la terre. Il a profité en fait de effectivement le truc qui s'est passé sur les serres qui ont été très mal expliqués dans les médias, ou le truc sur le train Lyon-Turin. Donc il a profité de ça pour faire acter la dissolution. Moi je trouve ça et à la fois ridicule, parce que effectivement, on peut pas dissoudre un mouvement, quoi. On est tellement différents, tellement multiples, il y a tellement de groupes qui composent les soulèvements de la terre que c'est complètement c'est inenvisageable. En théorie, c'est sûrement possible, mais en pratique, je vois pas comment ça peut être. Et je pense qu'en plus, ça va encore de nouveau desservir, parce qu'on ça va faire qu'on est plus déterminé que jamais et qu'on va être plus nombreux que jamais. Je pense que ça va ne faire que conforter nos positions, quoi.
Au niveau très local, à Blois, quelles associations font partie des soulèvements de la terre, si tu veux bien nous en parler?
Bon, donc il y a déjà Extinction Rébellion, je crois qu'il y a la Confédération Paysanne. Après, je ne peux pas vous dire exactement pour les autres groupes, je ne sais pas qui a été signé, je ne suis pas allé voir la liste des gens du Loir-et-Cher qui ont été signés cette liste. Mais je sais qu'hier, il y avait des gens du NPA, il y avait des élus verts, évidemment. Je pense qu'il y avait aussi des gens qui sont nulle part, mais qui s'inquiètent. Parce que, et pour la planète, et pour notre démocratie. Parce que ça implique, ça a deux côtés, cette médaille. Il y a l'inaction climatique, mais il y a aussi nos pertes de droits, quoi. Ça, c'est inquiétant.
Tu as parlé de plusieurs actions qu'ont menées les soulèvements. On va s'intéresser surtout à l'une d'entre elles, la ligne Lyon-Turin dont tu as parlé, Upsal. Avec la recommandation de la semaine, chaque semaine dans la lorgnette, on essaie de vous parler d'un podcast, d'un livre, d'un film, un docu, en lien avec la thématique du jour. Amira, de quoi on va parler ce soir ?
On va écouter un extrait d'une vidéo YouTube de Vincent Verzat. Vincent Verza partage du contenu autour de l'écologie sur sa chaîne YouTube Partager, c'est sympa. Il a fait une vidéo sur la polémique autour de la ligne ferroviaire Lyon-Turin.
Ça y est, le cortège se met en branle et je vous dois quelques chiffres pour bien définir l'enjeu de cette mobilisation. Le chantier pour la ligne TGV Lyon-Turin a été lancé en 1992, il y a plus de 30 ans. Telt, qui dirige les travaux, se félicite d'avoir déjà creusé 33 km de galeries sur un total de 162 km. La mise en service est prévue pour 2032 et devrait permettre de réduire la pollution liée au trafic routier dans ces vallées de montagne.
Bon, mais en vrai, moi je suis écolo, j'adore le train, je prends le train tout le temps. Alors pourquoi je suis contre ce projet ?
Parce qu'une ligne ferroviaire existe déjà, sur laquelle circulent déjà des TGV et du fret, une ligne pour autant sous-exploitée, elle n'est utilisée qu'à 20% de sa capacité de fret par exemple. En la modernisant, c'est jusqu'à 60% des camions qui aujourd'hui empruntent les tunnels et polluent la vallée qui pourraient utiliser cette ligne.
Nous sommes fiers pour la Fédération Sudrail et l'Union Syndicale Solidaire de faire partie de ce combat.
Est-ce que les cheminots ils sont en faveur du projet ?
Non, les cheminots ils sont pas en faveur du projet parce que les cheminots ils ont compris que le Lyon-Turin c'était un projet contre les cheminots et contre le service public ferroviaire. Depuis les travaux sur Lyon-Turin, il y a eu que des destructions de suppression d'emplois, il y a eu des destructions de triage fret SNCF, et en gros, il n'y a pas plus de trains qui roulent sur les lignes.
Le fret SNCF est en cours de liquidation, des centaines d'emplois sont menacés. Je vous ai mis plusieurs liens en description, mais la conclusion est sans appel. Le fret en France n'a pas été soutenu, défendu à la hauteur de son rôle clé dans la transition écologique.
Donc non, les cheminots, ils ont compris que Lyon-Turin, bah, c'était en fait un projet pour les capitalistes, pour le lobby BTP et pas pour le service public ferroviaire.
30 milliards dans un projet, alors qu'ici, c'est encore Vinci, Eiffage et NGE qui vont rafler la part du lion de cette avalanche d'argent public. Mais ce n'est pas le seul reproche fait à ce projet. Cette mobilisation est axée sur l'impact que le chantier a et aura sur l'eau. Dans un excellent post que je vous invite à lire sur leur compte Instagram, les Soulèvements de la Terre expliquent que plusieurs communes ont vu leurs sources se tarir depuis que le chantier a commencé, mais surtout qu'un rapport de la Commission européenne estime qu'entre 65 et 120 millions de mètres cubes d'eau devront être drainés chaque année pour éviter que le tunnel ne s'effondre.
Voilà pour cet extrait d'une des vidéos de Passer le Message, cette chaîne YouTube qu'on vous recommande. Il était question de la ligne Lyon-Turin. Donc, comme tu le disais, Upsal, tout à l'heure, il y a une ligne déjà existante, sous-exploitée. Et tu le disais aussi, on dit les écolos, vous êtes contre le train sur ce sujet-là, alors qu'en fait, pas du tout.
Mais il y a même le syndicat Sudrail. Donc c'est là qu'il faut se poser des questions quand ça regroupe aussi le social, la partie sociale. Même eux, pour le coup, ils connaissent bien le sujet et ils sont contre. Donc puis ça a été dit, mais c'est un projet qui a 30 ans. Enfin, je pense qu'en 30 ans, il est temps d'avoir changé nos priorités. Et on sait que de toute façon, il va falloir qu'il y ait moins de fret tout court, qu'il y ait moins de consommation. Donc ça sert à rien. Il faut déjà exploiter la ligne qu'on a, puisqu'effectivement, de 20% on peut bien exploiter davantage. Et puis il va falloir arrêter de penser qu'on peut tout déplacer tout le temps pour rien, quoi.
Pour en revenir à la dissolution, tu le disais, le terrain avait été un peu préparé. Il y a eu une série d'arrestations ces derniers jours des militants des soulèvements de la Terre. Et puis les mots employés par des membres du gouvernement comme écoterrorisme, etc. D'où, quand est-ce qu'a commencé un peu cette préparation du terrain ? Est-ce que c'était avant Sainte-Soline ou c'est vraiment Sainte-Soline qui a marqué le changement ?
Alors je pense que concrètement ça s'était déjà un petit peu durci avant, mais ça restait un peu... ça allait, quoi. Mais je pense que Sainte-Soline, ça a vraiment... ça a été un choc pour tout le monde, quel que soit le côté. Je pense qu'enfin, en tout cas pour nous, ça a été un choc, et je pense que l'État, je pense que si l'État a réagi avec autant de violence, parce que vraiment j'insiste, la violence elle est vraiment de leur côté. Nous on vient avec des lunettes pour se protéger des lacrymos et des masques en papier, quoi. Donc Je pense que ça les gêne. Ils voient bien qu'on est de plus en plus nombreux, que nos causes, elles sont légitimes et que les gens autour de nous, la population, elle commence quand même un peu à ouvrir les yeux à force de voir des reportages, d'entendre des émissions, de lire des choses. Contrairement à ce que pense le gouvernement, le peuple, il n'est pas complètement débile, quoi. Donc il y a un moment, ils se rendent compte. Donc je pense ils deviennent très violents parce qu'on commence à vraiment gêner. Mais on lâchera rien. Enfin, je veux dire, c'est vital. Donc, comme c'est vital, de toute façon, on n'a pas le choix.
Le moyen d'action, c'est la désobéissance civile. Tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer de quoi il s'agit ? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde.
La désobéissance civile non violente, c'est d'avoir des actions qui vont donc désobéir à la loi, aux règles qu'il peut y avoir, mais sans, à la base, sans dégradation et surtout sans atteinte aux personnes. Je pense qu'il y a une limite à cette désobéissance civile qu'on est en train d'observer, c'est que concrètement, toute cette désobéissance, elle a rien apporté. Les marches du climat n'ont rien apporté, toutes les petites actions de désobéissance civile n'ont rien apporté. En face, ça se durcit, on se retrouve fiché, on se retrouve obligé de planquer nos téléphones, on peut se retrouver en garde à vue pour 48 heures, mais comme pour les retraites. En tout cas, je pense que ça va pas lâcher du côté des écolos et des gens du social, parce qu'il y a une telle tension, les gens ils sont tellement à bout que quelque part j'ai envie de dire ils ont presque plus rien à perdre. Donc ça lâchera pas, quelle que soit la violence en face. Et comme ça marche plus, il va falloir passer à des choses effectivement où on va dégrader plus de matériel, on va désarmer des choses qui nous paraissent violentes parce que elles détruisent vraiment les écosystèmes, elles détruisent l'avenir de nos enfants en fait. Donc elles sont violentes et donc on se défend. À chaque fois, c'est toujours par contre en préservant l'intégrité physique des gens qui sont en face. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un consensus chez tout le monde. Il n'y a pas de violence sur les personnes. Par contre, après, effectivement, il peut y avoir de la dégradation, du désarmement, quoi. Puisque c'est des armes, en fait, de destruction massive, hein, puisque à long terme, là, c'est de la destruction massive.
Tu étais présente hier au rassemblement devant la préfecture à Blois. Tu y allais avec quelle idée en tête ? Tu t'attendais à un changement de la décision du gouvernement ou...
Alors, je pense qu'on se fait plus d'illusions sur notre gouvernement. Je pense qu'ils vont pas fléchir. Ils ont l'air contents de leur stratégie. J'y suis allé parce que ça me paraissait important d'être là. J'avais pas trop envie d'y aller. J'avais plein d'autres choses à faire, mais j'avais l'impression que c'était un peu obligatoire d'être là et de montrer que d'abord on n'avait pas peur et qu'on continuerait à lutter et montrer à tout le monde qu'il y avait une grande solidarité. Je crois qu'il y avait 170 regroupements dans toute la France hier à la même heure, alors que ça a été décidé en 24 heures. Donc je pense que ça donne une tonalité pour dire qu'effectivement on lâchera pas, quoi. Donc ils peuvent dissoudre. Effectivement, ça ne servira à rien. Et dès le premier jour, ça n'a servi à rien. Je pense qu'on sera de plus en plus nombreux. Je remercie encore Darmanin de ce petit coup de pub. Je pense que les soulèvements de la Terre, on n'en aurait jamais entendu parler sans lui. Bah, maintenant, tout le monde en parle, même dans les autres pays.
Et justement, hier, donc, j'étais présente aussi. Il y a une dame qui invitait plus de gens à rejoindre un collectif qui est donc entre guillemets dissous. Donc ça montre que ça ne vous arrête pas en fait et que vous...
Non, ça s'appellera autrement, ça prendra plein de formes différentes. Je pense qu'ils ont... tous ces groupes-là, ils ont montré qu'ils avaient beaucoup de créativité, donc ça fait que stimuler cette créativité, que stimuler leur solidarité, que stimuler leur colère. Je pense que vraiment, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire, mais ça marchera pas. Et puis dans le social, ça va pas marcher non plus. Donc je pense que c'est ça qui les inquiète, en fait, c'est que tout est en train de se rejoindre. Il va y avoir un genre de coordination des luttes, là, qui va mettre un peu en péril leur caste qui est tout en haut, là. Et je pense que ça les inquiète. Donc, entre tous ces gens-là et eux, pour l'instant, ils mettent les forces de l'ordre, que je plains, parce que je pense que si j'avais voulu me diriger vers cette profession, arrêter des gens parce qu'ils ont des casseroles, je pense que vraiment, ça me ferait pas plaisir. Aller balancer des grenades sur des gens qui chantent, qui dansent, des enfants et tout, je pense que ça me ferait pas plaisir non plus. Je me dirais que je me suis trompé de chemin, quoi. Donc je pense que pour eux, c'est pas facile non plus d'être pris en sandwich entre un gouvernement qui est un peu en délire, parce que je pense qu'il est aux abois. Et des écolos qui lâcheront pas.
Amira, tu étais présente au rassemblement et tu avais un micro dans tes mains. On écoute un enregistrement que tu as réalisé hier soir.
Les soulèvements de la Terre sont un élan de révolte massif, populaire, qui revendique aujourd'hui plus de 110 000 soutiens contre toutes les forces qui détruisent le vivant.
Aujourd'hui comme hier, l'État français a du sang sur les mains.
Bonjour.
Comment avez-vous joint ce collectif et pourquoi?
Depuis... il est quelle heure? Depuis 35 minutes.
D'accord. Et pourquoi du coup?
Parce que la décision de dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre... mais voilà, enfin, je trouve ça dangereux et injuste et dangereux. Et je trouve ça important qu'il y ait du monde... Aussitôt pour réagir.
Que le gouvernement décide de dissoudre un collectif. C'est pour ça que vous êtes là.
Ben, ça dépend du collectif. Mais pas celui-là.
Comment vous. Donc, du coup, vous avez connu le collectif seulement aujourd'hui ou...
Non, je le connais par la presse, des réseaux écologiques.
Vous avez des attentes de ce rassemblement aujourd'hui?
Ben, j'espère qu'il y en a partout et que et c'est important de montrer que comme ce qui a été dit là, quoi, on n'a pas peur de montrer notre soutien à certaines causes et même malgré les intimidations et malgré la violence du pouvoir dominant.
Le témoignage de cette personne, il montre bien ce que tu disais, Upsal, ce coup de pub que vous fait Darmanin. Cette mise en lumière, la personne dit « ça fait 35 minutes que j'appartiens au mouvement, enfin que je me revendique du mouvement ». Et c'est intéressant cette réflexion-là.
Bah, puis je pense qu'en fait, ça nous donne de la force et de la joie de savoir qu'on est 170 comités en France, 170 regroupements ce soir-là, tous pour la même cause. Donc je pense que c'est vraiment très contre-productif. Je ne sais pas par qui sont conseillés, j'espère qu'ils ne les payent pas trop cher, quoi. Parce que c'est assez fou.
En préparant cette émission, on lisait un article dans Courrier International qui donnait comme information que le gouvernement a interdit 32 associations depuis 2017 et que c'est plus que tout autre gouvernement dans la 5e République. On l'a vu aussi avec la Ligue des droits de l'homme et cette volonté de remettre en cause un peu la légitimité des associations. Est-ce qu'au niveau local aussi, vous ressentez un peu cette ambiance-là de bâillonnement?
Alors, moi, j'ai commencé Extinction Rébellion, le groupe local de Blois, en 2019. Franchement, on y allait là, vraiment, j'ai envie de dire, la fleur au fusil, à visage découvert, on revendiquait nos actions, on était... Et tout ça, c'était dans la bienveillance des forces de l'ordre, quoi. Et je me rends compte que même sur une ville comme Blois, alors, tout... très relatif, tout se passe toujours très très bien à Blois, il y a pas de souci globalement, mais on en vient à faire des actions où on se cache le visage, où on n'emmène plus nos téléphones portables, donc même localement l'ambiance a vraiment changé. Je crois qu'on est dans un gouvernement qui supporte pas du tout la contradiction, ni la discussion, ni quoi que ce soit. On l'a vu sur plein de domaines. Donc je ne sais pas. Je pense qu'on est vraiment arrivé au bout de la 5e République. Ça s'écroule. C'est en train de tomber en déliquescence complète. Et là, ça a atteint des sommets, quoi. On a l'impression qu'ils ont plus de limites, qu'il y a plus de démocratie, puisqu'il y a plus de discussion entre le peuple et ceux qui dirigent le peuple. Donc ça, c'est vraiment super inquiétant pour nos enfants. Ils ont déjà la crise écologique, franchement, ils n'ont pas besoin de ça en plus, quoi. Ça, c'est vraiment inquiétant. Les deux sont très, très inquiétants.
On fait une pause musicale, on écoute Soulève-toi, un morceau de Arval. Et Arval, en fait, c'est le youtubeur qu'on a écouté tout à l'heure pour la recommandation.
Pourquoi les policiers ont des trucs sur les bras, les jambes, des casques et bâtons?
À ton avis, c'est pour quoi faire?
C'est pour faire la bagarre.
Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère. Dis-moi qui veut la guerre de l'eau, hein? Sûrement ce qu'ont les hélicos, les chars d'assaut. J'ai beau battre des paupières, j'y vois plus rien, merde, c'est l'enfer. Mais ferme les yeux, c'est pire, mes larmes m'aident à y voir clair. De toute façon, j'ai pas besoin de mes yeux, mon corps c'est suffisant pour démanteler calmement le symbole de leur accaparement. Lacrymo crépite, mortier réplique, les quadres appliquent, grenades j'évite. Tout se précipite, je crois que ça y est, je vois la brèche entre les deux fourgons qui flambent. Une projectile, grenade détonne, un casque blanc vole dans les airs. Dernière poussée, je crois que c'est la bonne. Mais Serge était en
la force, on a le nombre, ils ont la peur, on a l'espoir, ils ont les gaz.
Mais nous on tatoue.
Et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres,
ce sera pour leur coller au basque.
Soulève-toi.
Et ils vont craquer.
Sûr que nous aussi, on va passer en force.
Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Méfiance, méfiance.
Face à l'eau qui dort, les projets de bassine sont morts.
Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs destructions de biens, plusieurs appels à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution de soulèvement de la
mais
terre.
Mais qu'est-ce qui va dissoudre? Certainement pas mon envie d'en découdre. Apparemment leur stratégie c'est de mettre le feu aux poudres. Ça me donne encore plus envie de jouer des coudes.
Coude à coude.
Dissous, je deviens ce que je défends. Je suis prêt à me liquéfier sur champ pour t'exploser aux dents.
On est de la mauvaise graine, du chien dent, de la grosse racine qui fait des croche-pattes pour que partout machine piétine.
Et c'est par amour pour le vivant, c'est parce qu'il leur resterait peu de temps que la houtarde enfonce les lignes, que le picma enfonce les clous. C'est pour ceux qu'ils ont de sublime, c'est pour qu'ils rendent coup pour coup. J'ai vu la forêt rasée pour la mettre au garde à vous. Pourtant y'a tant de choses à chérir, à l'affût j'enverrai pas de bouc. Je vais m'interposer physiquement, amour et rage vont de pair. Nous sommes la nature qui s'effort, nous sommes les soulèvements de la terre. Sous le couvert de l'anonymat, je vais m'approcher de toi. J'aurai plus de visage, tant pis des taxes ça suffira.
Deviens un spectre,
esprit frappeur, un fantôme.
Pas de sabotage, non,
du désarmement.
C'est ma rage qui veulent dissoudre,
je comprends, elle n'a pas de prix.
C'est l'espoir qui veulent dissoudre,
autant assécher la pluie.
Mais ils essayent de nous faire taire,
c'est là qu'on fait le plus de bruit.
Alors faites feu au bulldozer,
c'est pour éclairer la nuit.
Soulève-toi,
et avance masqué.
S'ils font de nous des ombres,
ce sera pour leur coller au basque.
Soulève-toi,
et ils vont craquer.
Sûr que nous aussi, on va passer en force.
Soulève-toi,
ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer.
Soulève-toi,
confiance, confiance.
Ceux qui repoussent partout ne peuvent être dissous.
L'autre jour, on a pris l'autoroute pour y construire un mur. Une manière de dire merci, mais on n'ira pas vers l'extinction, même en voiture électrique. Alors bien sûr, ils vont nous traiter d'éco-terroristes et d'autres trucs chiants, mais je crois que ça y est, on est à un tournant. Il y a tant de zones à défendre, à cultiver, à soigner, à réparer. Alors je sais pas dans quel camp tu veux être.
Mais si tu nous entends plus, inquiète-toi. Ce sera le calme avant la fête.
On est toujours sur Sud Joseph dans la lorgnette avec Upsal et on parle des soulèvements de la terre. Quelles peuvent être les autres formes de riposte possibles, d'après toi?
Ils ont déjà trouvé plein d'autres formes de riposte. Il y a toute une campagne d'action là qu'ils ont appelée les 100 jours pour les sécher. Donc ça concerne l'eau. Ça peut être aller investir la piscine du voisin, ça peut avec des potes, ça peut être aller couper des irrigations d'agriculteurs, ça peut être tout ce qui touche l'eau, tout ce qui touche à la protection de l'eau qui est notre bien commun et que certains essayent de s'accaparer. Ça, il est hors de question que ça devienne le nouvel or bleu ou quelque chose comme ça. On en a tous besoin et il va falloir le partager et le partager avec justice. Il y a le convoi de l'eau aussi. Alors ils vont faire un convoi de l'eau qui part le 18 de Sainte-Soline et qui va arriver le 27 à Paris. Donc on a beaucoup de chance nous parce qu'ils vont passer par chez nous. Ils seront le 23 de mémoire à Blois. Donc vous pouvez aller vous inscrire hein, sur les soulèvements de la terre. Ils ont besoin de savoir combien on sera. Donc ce sera une vélorution énorme avec aussi quelques tracteurs pour s'il y en a qui ont du mal des fois à faire du vélo et on pourra mettre les vélos dans les remorques. L'idée c'est d'aller jusqu'à Orléans, de rester une journée à Orléans parce que c'est là que sont décidés tout ce qui concerne l'eau pour le bassin ouest. Puis après, deux jours où on ira rejoindre Paris. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Je pense qu'ils ont prévu plein de choses. Que ce sera à la fois beaucoup de revendications, mais aussi beaucoup de joie et de plein de choses qui touchent notre créativité, qui nous aident à être ensemble, plus forts, plus solidaires et à passer outre toute cette violence qui s'abat sur nous.
Tu parlais tout à l'heure de la pluralité des personnes, des militants et militantes des soulèvements de la terre. Je lisais sur le site des soulèvements de la terre tout à l'heure. Malgré la dissolution, les soulèvements ressurgiront au débotté sur des chantiers ou au cœur d'un site industriel, déborderont de rues bondées de clameurs contre l'ordre marchand, s'enracineront dans des jardins pirates, des maisons du peuple ou des fermes communes. À vous, à nous de trouver. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de ce mouvement, c'est qu'il réunit autant des paysans que des sociologues, des élus.
Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des gens tellement multiples que du coup ça nous donne d'autant plus de force parce que effectivement on s'auto-enrichit les uns les autres. Et puis moi, j'ai vu à Sainte-Soline, ce qui m'a frappé, c'est la solidarité énorme qu'il y avait entre tous, alors que 30 000 ça commence à faire vraiment beaucoup de monde, que des gens qu'on connaît pas, et vraiment on était tous comme frères et sœurs. Alors je pense que quand on se prend un choc comme ça, ça crée aussi forcément du lien et ça serre les coudes, mais pour le coup ça a bien marché parce que ça a créé beaucoup de liens et je pense que là, il y a un maillage sur le territoire qui, contre lequel ils ne peuvent plus rien, quoi. En plus, on préserve l'avenir de nos enfants, donc du coup, on n'a pas de limite, quoi. On n'a pas de limite, donc ils nous font pas peur.
C'est aussi le début d'une bataille juridique, puisque les avocats des soulèvements de la Terre commencent à préparer une riposte. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors effectivement, on a aussi des avocats, donc il va y avoir des recours, je pense qu'ils vont pas laisser ça comme ça, même si quelque part... C'est pas tellement important, ça fait un gros coup de pub, beaucoup de promotion, je pense que pour nous on peut le voir comme ça, parce que ça va rien changer, les soulèvements de la Terre, c'est impossible de les dissoudre, c'est vraiment mais impossible. Donc ils vont se rendre ridicules, ce sera pas la première fois, mais a priori ça ne tue pas.
Comme tu le disais, il y a plus de 100 000 personnes qui s'en revendiquent, et il y a une photo ici sur le site des soulèvements de la Terre, on ne dissout pas la colère.
Mais non, c'est impossible. Avec les mouvements sociaux, ils ont essayé aussi. Ils n'ont pas eu de gain de cause sur les retraites, mais la colère sociale, elle est là aussi. Les deux sont vraiment en train de se lier, parce que de toute façon, les deux sont liés, quoi. Parce que s'il faut qu'il y ait une transition, et il faut qu'il y ait une transition, il va falloir emmener tout le monde. Et on n'a pas le choix, donc il va falloir que ce soit juste, une transition qui soit juste pour tous. Et donc, forcément, le côté social et le côté écologique, ils vont forcément se rejoindre, et là-haut, qu'ils aient peur ou pas peur, pour leurs petits privilèges, ça va sauter. C'est qu'une question, moi je pense que c'est qu'une question de moi, je pense pas que ça tienne encore les 4 ans du mandat. Ou alors ça va être on entend parler de reconnaissance faciale, de tout ça. On est dans un état policier, ça fait vraiment, vraiment peur. Le pays des droits de l'homme, il a du plomb dans l'aile, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler des prochaines dates à venir de mobilisation à Blois, dans le Loir-et-Cher et en région centre ? Tu as commencé à en parler avec le convoi de l'eau, par exemple.
Le convoi de l'eau, oui, le convoi de l'eau. Je pense que si vous avez un petit peu de temps, fin août, venez rejoindre les Vélorussions. En plus, c'est fédérateur, c'est toujours très festif. Donc vraiment, il faut venir. Après, vous pouvez rejoindre notre collectif Extinction Rébellion. On fait des actions assez régulières. On a fait une belle action dimanche avec une belle campagne d'affichage qui a été... relayé généreusement par Azalis, entre autres. Je pense qu'il faut bouger. Ça donne en plus beaucoup de confort par rapport à l'éco-anxiété. Parce qu'effectivement, si on regarde les projections, vu que l'État ne fait rien, les projections, elles sont quand même très, très sombres. Ça peut plonger vraiment les gens dans la dépression, dans la tristesse, dans tout ce qu'on veut. Et de rejoindre l'action... C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment confortable. Ça ramène un peu de joie, ça ramène un peu d'espoir. Il faut pas hésiter. On a une réunion d'accueil des nouveaux le 27 juin à la Crozille, sauf s'il pleut des cordes. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Il y a plein de façons de se mobiliser. Il y a des rôles pour tout le monde. Chacun peut se mobiliser à sa façon. Chacun peut être utile. La porte est grande ouverte. Il y a tellement de projets pourris dans notre Loir-et-Cher ou dans la France, ou de rejoindre les réunions des soulèvements de la Terre. Il faut y aller. Il faut pas attendre que les autres le fassent. Il faut se dire que ça devient prioritaire sur un peu le reste, si on veut conserver un peu... ce qui nous reste.
Est-ce que tu as autre chose à rajouter, à nous partager avant qu'on se quitte ?
Déjà, je voudrais remercier Studio Zef, parce qu'à chaque fois qu'on vous a demandé de passer quelque chose, des textes ou n'importe, vous avez accepté. Donc ça, déjà, c'est agréable de savoir qu'il y a encore des radios qui peuvent parler un peu librement de tout, même si c'est des petites radios, parce que les grosses, elles sont très cadenassées. Hein. On voit bien ce qui se passe sur France Inter, là. Malgré les audiences
phénoménales,
c'est complètement fou, vraiment. On est dans un monde qui marche sur la tête, quel que soit le secteur, en fait. Et notre radio publique, Eh ben en fait, elle est au service de l'État, comme les forces de l'ordre, comme tout ça. Je pense qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, tout ça, c'est au service du peuple, et c'est pas à leur propre service. Ça commence à poser un petit problème, puisque, en fait, ces gens-là, ils travaillent pour nous, quoi. Donc, ils nous doivent des comptes, et non l'inverse. Et donc, bon, c'est quand même une époque particulière. Et alors qu'on devrait être tous... très soudés, essayer de trouver des solutions. Et ben en fait, le gouvernement nous divise, fait monter l'extrême droite. Il y a un petit rassemblement aussi antifasciste à Pierrefitte-sur-Sauldre samedi. J'invite tous ceux qui ont envie de lutter aussi contre cette extrême droite qui monte, avec notre gouvernement qui lui fait un beau marchepied à chaque fois que c'est possible. Et ben n'hésitez pas à aller rejoindre tout le monde. C'est de 10h à 16h à Pierrefitte-sur-Sauldre.
Les informations, donc, si vous voulez plus d'informations, il y a le NPA qui communique dessus.
Oui, qui communique, je pense que sur les réseaux sociaux, je pense qu'on trouve des informations, même pour du covoiturage, parce qu'on reste écolo et qu'en plus c'est loin. Mais il faut rien lâcher. Plus on va mettre d'énergie là, et plus ça ira vite de basculer dans quelque chose qui va être plus positif pour l'avenir. Donc il faut rien lâcher, parce que là ils sont en train de nous précipiter dans le ravin. Sûrement ils se protègent, hein, mais concrètement ils cherchent pas à nous protéger nous, ça c'est sûr.
Ben, un grand merci Psal d'être venu nous parler du rassemblement d'hier et puis des soulèvements de la terre, peut-être une prochaine fois.
Avec plaisir. Je rappelle qu'il y a un rassemblement pour les soulèvements de la terre mercredi prochain devant la préfecture. Je pense que là on aura eu un peu plus de temps tous les collectifs là pour préparer quelque chose d'un peu plus sympa, festif, sûrement très festif, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Est-ce qu'il y a un horaire déjà de prévu?
19h a priori.
D'accord, voilà. Très bien. Et bien merci Upsal.
Merci.
De rien.
À bientôt.
De rien, merci.
On se quitte cette semaine avec le journal de bord d'un élu local, l'épisode 80. Cette fois, l'épisode continue pendant la manif contre la réforme des retraites. Gaël et Nicolas rencontrent la CFDT et Sud. Une série de 3 épisodes de micro-trottoirs, c'est le 2e au cœur de la 10e journée d'action. Ils interrogent ce moment historique du syndicalisme et de l'histoire des retraites en donnant la parole aux manifestants sur eux, leur engagement et le rôle essentiel des syndicats dans la vie publique. On se retrouve jeudi prochain pour une autre lorgnette. Merci Amira.
Merci Clémentine.
Et puis peut-être à bientôt sur les ondes.
Journal de bord d'un élu local.
Ouais, c'est l'épisode 80. C'est le second épisode d'une trilogie. Micro-trottoir, les syndicats aux manifs pour la retraite. Et dans cet épisode 2, on va à la rencontre de CFDT et de Sud. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Alors, deuxième partie du podcast, au cœur de la manifestation, c'était celle du 23 mars 2023. Ce jour-là, c'était la 9e jour de manifestation contre la réforme des retraites menée par le gouvernement d'Emmanuel Macron, ou peut-être par Emmanuel Macron lui-même. Et donc, on s'était retrouvé avec Nicolas et ses 2 enfants d'ailleurs, au cœur de la manifestation, avec un micro à tendre. Et puis, on avait envie d'aller voir les syndicalistes. Moi, je dois vous avouer que j'ai pas trop l'habitude des mouvements sociaux. Je n'ai pas l'habitude d'aller en manifestation et je n'ai pas connu un mouvement d'une ampleur comme celui-là. Je ne connais pas non plus autour de moi de syndicalistes et j'en ai peut-être une image un peu biaisée, celle de la fiction. Moi, dans mon éducation politique que je fais avec ce podcast, ça me réjouissait de rencontrer des gens qui portent une voix politique dans leur travail. Et donc, on s'est dit qu'on allait poser des questions à des syndicalistes. On avait envie d'avoir leur avis sur cette loi, sur leur situation à eux, à elles. Et donc, on commence avec la CFDT. Alors, on n'était pas encore très très à l'aise au niveau du micro-trottoir. On n'a pas le prénom de cette personne qui fait donc partie de la CFDT.
C'est aussi des prises de parole citoyennes. Vous, en tant que personne, qu'est-ce qui fait que vous êtes là, si vous êtes d'accord?
Oui, j'ai 40 ans que je travaille, j'ai bientôt 59 ans. Je vais arrêter dans 2 ans et j'ai pas l'intention de refaire 2 ans de plus. Je suis auxiliaire de vie, métier très difficile, pas très bien payé, aucun intérêt de continuer.
Vous êtes auxiliaire de vie et vous êtes syndiqué CFDT.
Oui.
Justement,
ça fait bien longtemps.
Pour quelle raison?
Moi, je suis syndiqué depuis l'âge de 18 ans. Donc, pour des multiples raisons. D'accord. Pour la défense des gens, des travailleurs, pour ne pas se faire avoir sur tout et n'importe quoi. Ça fait 40 ans que je suis syndiqué.
Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une intersyndicale qu'on n'arrivait pas forcément à voir sur les autres combats? Qu'est-ce qu'il a de particulier, celui-là?
Il a de particulier qui touche, d'après les sondages, apparemment, il n'y a pas loin de 70%, voire plus, de gens qui sont contre. Donc, je pense qu'à un moment donné, s'il y a une intersyndicale, ça veut dire quelque chose. Et nous, on a un syndicat plutôt réformateur, la CFDT, et là, Laurent Berger, on sent qu'il n'est pas d'accord du tout cette fois. Voilà.
À l'échelle locale, le dialogue, il est bon, justement, sur l'intersyndicale? Ça se passe bien, vous trouvez?
Oui, tout à fait, aucun problème.
Et dans le métier d'auxiliaire de vie, qu'est-ce que vous, par exemple, vous auriez dû partir en retraite à quel âge et la réforme, où est-ce qu'elle vous emmènerait?
Moi, j'ai fait 20 ans d'imprimerie avant de faire auxiliaire de vie. Je vais partir à 61 ans et du coup, ça me fait partir à 63.
Avec un salaire qui reste le même ou ça a un impact sur votre salaire?
Oui, avec un salaire qui reste le même. Donc voilà. Fatigué, cassé de la tête aux pieds, des douleurs, le dos, les bras. Donc non, on ne peut pas continuer comme ça.
Vous êtes syndiqué depuis, vous avez 18 ans, il y a de moins en moins de gens qui se syndiquent. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous a permis d'être syndiqué?
Je ne sais pas si ça m'a vraiment apporté quelque chose, mais c'est une lutte pour l'ensemble des gens, pour tout le monde. C'est pas un individuel. Quand on est syndiqué, c'est parce qu'on aide les autres. Je suis même élue dans les instances paritaires de la ville. C'est pour les autres, pas pour soi.
C'est une question de solidarité, quoi.
Ah ben complètement. Un syndicat, c'est ça. On ne défend pas sa personne, c'est l'ensemble. Enfin, moi, j'ai toujours fait comme ça.
Moi, ça m'a fait du bien d'entendre une voix syndicaliste. Mais en fait, surtout, de rencontrer l'humain qui est derrière. Ouais, Laurent Berger, je vois qui c'est. Il a été présent, là, sur ce mouvement social. Mais avant, je n'aurais pas été foutu de savoir qui c'est. Et la CFDT, par rapport à la CGT, je vous ai dit, j'ai pas de culture syndicale. Donc, je sais pas, moi. Je connais pas. Il se trouve que depuis, j'ai vu une super vidéo, un portrait de Nicole Nota, qui est sur Blast, sur YouTube. C'est fait par Usul et Cotentin, je vous le conseille, c'est vraiment très intéressant. Et donc, en plus, ça parle de la scission avec le syndicat Sud. Et justement, on a rencontré quelqu'un de chez Sud, qui nous a parlé un petit peu de son syndicat. Il s'appelle Christophe. Alors Christophe, c'est quelqu'un que Nico connaît, donc c'est quelqu'un qui a l'INSA. Il m'a impressionné en plus parce qu'il est grand, il a une belle voix de radio. Ça fait un moment qu'il est dans le game, ça se voit parce que, je le raconte, il y a eu un grand boom, un moment à côté de nous, un pétard. Le gars, il n'a pas bougé, donc ouais, il a l'habitude de faire la manif bien plus que moi. Hein. J'ai fait un bond de 3 mètres évidemment. Je vous laisse écouter Christophe, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi.
Salut Christophe, donc là on se retrouve sur la manif, t'as un drapeau sud, est-ce que tu peux me dire c'est quoi ce syndicat? Parce que tout le monde connaît la CGT comme un syndicat plus dur, la CFDT comme un syndicat qui se dit réformiste, et Sud c'est quoi comme syndicat?
Alors Sud c'est un syndicat de lutte qui est né de la scission dans les années 70 de divergences de lutte et de façon de combattre, notamment par rapport à la CFDT à l'époque, et donc Sud est un syndicat qui est plus proche de l'autogestion et de l'autodétermination. Il n'y a pas de hiérarchie, chacun parle en son nom et non pas en ordre de marche derrière un chef de file.
Ça se méfie du caporalisme qu'on peut ressentir dans certaines institutions?
Oui, complètement. C'est-à-dire que toute personne peut se déterminer en son nom propre et si les autres ne sont pas d'accord, ils lui disent, mais chacun garde son droit de parole.
Alors, on sait que la CFDT, elle défendait un système de retraite par points. La CGT, elle est plutôt sur la retraite par répartition avec un système de solidarité et tout ça. Toi, ton point de vue sur ça, en ton nom propre, si je comprends bien?
Le point de vue de Solidaire, bien évidemment, c'est de maintenir le système actuel et d'aller chercher l'argent dont on a besoin pour financer ce système par répartition, là où il se trouve, c'est-à-dire dans le patronat et dans les grandes entreprises qui font des milliards de bénéfices actuellement, comme Total, Vinci et entre autres. L'argent, on en a en France. Il faut juste aller le chercher là où il est.
On est bien
pas
d'accord.
Dans, pas dans la poche des travailleurs.
On est bien d'accord.
Oui, dans le travail.
Vous êtes nombreux à Sud sur le Blaisois ?
Oui, si on prend toutes les fédérations solidaires, entre Sud Éducation, Sud Finance, Sud Crédit Agricole, Sud Santé, Sud Douane, on est finalement, on arrive à être assez nombreux.
Assez nombreux, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire... Bon, ça veut dire qu'en adhérent, on va être, je dirais, 30, entre 30 et 50. Après, sur chaque Sud Éducation, on est beaucoup moins nombreux, mais voilà, on est facilement une bonne cinquantaine.
Ok. Sur les autres luttes sociales, il n'y a pas toujours l'intersyndicale. Et là, sur cette lutte-là, on voit que tout le monde est uni. Qu'est-ce qui fait ça, d'après toi ?
Oh bah là, je pense que c'est probablement la qualité principale qu'il va falloir reconnaître à Emmanuel Macron, c'est qu'il a été capable de fédérer tous les syndicats sur une même ligne de lutte, alors qu'effectivement, d'habitude, on est en grosse divergence avec les syndicats comme l'UNSA, la CFDT, qui eux ne sont pas des syndicats de lutte, mais de négociation. Là, on est tous d'accord, ça ne va pas, on refuse cette réforme. Et d'ailleurs, maintenant, pour Solidaires, l'étape, c'est plus le refus de la réforme, c'est la démission du gouvernement.
J'ai l'impression que d'une manif qui était contre les retraites, on passe à une manif aussi qui dit son indignation face à un déni de démocratie avec le passage au 49-3, le passage la rapidité de l'étude du texte au Sénat, l'étude du texte en commission mixte paritaire, qu'à chaque étape du projet de loi, la démocratie était piétinée, non ?
Exactement, et c'est effectivement le gouvernement qui a décidé de déplacer la lutte de l'intersyndicale, qui d'ailleurs commence à être rejoint par différents partis politiques, par les Gilets jaunes qui se remettent un peu en mouvement. Donc effectivement, c'est vraiment ce déni de démocratie qui est un bras d'honneur à l'ensemble de la population française et des travailleurs, mais pas que des travailleurs, vraiment du peuple français.
Pour toi, pourquoi il y a de moins en moins de gens qui se syndiquent et ça sert à quoi d'être syndiqué ?
Ça sert aussi à pouvoir ouvrir sa gueule quand il y a besoin. Ça sert à défendre les personnes qui ne peuvent pas se syndiquer. On peut comprendre qu'il y a des personnes qui n'osent pas, qui subissent des pressions dans le monde du travail. C'est pas simple pour tout le monde. Faire une journée de grève, c'est pas facile d'accepter de perdre une journée de travail, de salaire, surtout pour des petits salaires. Donc les syndicats, ça sert aussi à garantir cette sécurité pour tous et cette répartition pour les plus faibles avec une égalité de traitement.
Tu crois que la peur, c'est quand tu es syndiqué, après, le jour où tu perds ton travail, tu as du mal à en retrouver parce que t'es un peu comme avec une étiquette sur le front, attention, mec, homme rebelle, quoi.
Bah, quand on voit ce qui se passe dans les tentatives de créer des syndicats chez McDo ou chez Amazon, oui, c'est clairement ça.
Nous, on a ce sentiment-là qu'il y a de moins en moins de monde dans le syndiqué. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, c'est le cas, effectivement, parce qu'on a quand même, et ça, je pense, c'est depuis Sarkozy, Hollande, Macron, ils ont quand même copieusement dézingué le corps social et les représentations syndicales en les ignorant et en les attaquant de front. Donc il y a effectivement beaucoup moins de monde. Par contre, on reste très présent, c'est-à-dire que les personnes, enfin moi je parle dans le cas de l'INSA Centre-Val de Loire où je suis représentant syndical, beaucoup de personnes viennent nous voir. Et ils viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on va pouvoir ouvrir notre gueule pour eux. Eux ne peuvent pas, ils se sentent vraiment en état de faiblesse par rapport au... Alors c'est pas le patronat, mais c'est les dirigeants, c'est les personnes qui ont du pouvoir. Ils savent que nous, on va pouvoir... En fait, on a une sorte de procuration pour parler à leur place. Et ça, c'est important.
C'est un peu la suppression des corps intermédiaires. Moi, j'ai l'impression, ça s'est beaucoup ressenti sur cette loi, il n'y avait, écoute, ni des élus locaux, ni des partis politiques, ni des syndicats, ni des représentants de profession. Et en fait, ça participait encore plus, ça crée une déconnexion entre la décision politique nationale et le terrain.
Ah bon, on se rend bien compte là que de toute façon, rien que dans la dernière allocution d'Emmanuel Macron, il est complètement hors sol. Il ne parle même pas de ce qui se passe dans le pays. Sa préoccupation pour l'instant, c'est de recevoir le roi d'Angleterre, quoi. C'est pas de régler le problème du monde du travail, ni des retraites.
Ah, l'impression de savoir tout mieux que tout le monde, quoi. Merci, c'est super.
Un dernier petit mot pour dire qu'en effet, le taux global de syndicalisation est tombé de 11 à 10,3% entre 2013 et 2019. Après, Christophe dit que Macron a réussi à unifier les organisations syndicales. Mais ça a eu d'autres conséquences. Depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, le nombre d'adhésions aux syndicats a augmenté. À la CFDT, une hausse de 30% au mois de janvier, et à la CGT, il y en a eu autant en 3 mois que toute l'année dernière. On s'arrête là-dessus, il y a un troisième épisode à venir. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Ciao!
Moi c'est Nico et c'est mon premier mandat.
Ton premier mandat de quoi ?
Je suis vice-président d'une agglomération et co-président d'un groupe écologiste à Blois.
Non, moi je suis Gaël, on est potes, et tu m'as proposé de raconter ce mandat dans un podcast.
Un journal de bord qui témoigne de la vie politique locale au fur et à mesure de l'actualité.
Et on en a déjà fait 60. Vous pouvez les trouver sur toutes les applis de podcast à raison de 3 par mois. Les applis de podcast c'est Deezer, Spotify, Apple Podcast.
Et on est aussi sur la radio locale Studio Zef.
Agitateur de fréquence.
Dans l'émission La Lorgnette.
C'est 91.1, c'est ça ? FM.
Chaque jeudi.
À 17h.
Voilà, merci à tous, abonnez-vous et n'hésitez pas à venir m'en parler pour s'améliorer encore. Ciao, ciao.
Ciao, merci. Ciao, ciao.